Je vais simplement essayer d'exploiter le titre qui est au-dessus de nous, en essayant de faire un petit parcours biblique de chacun des mots. Ça va plaire à ceux qui aiment l'exégèse, mais ça ne sera pas très fouillé. Et j'espère que ça ne sera pas lassant pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec l'exégèse. Simplement pour montrer comment chacun de ces mots a une base très profonde dans la Bible. Tout un parcours comme ça, toute une réalité qui se façonne au cours de l'histoire sainte, qui finit par se cristalliser dans Jésus. Parce que le disciple, le prophète, le prêtre, le roi, c'est Jésus. C'est Jésus. Et puis pour montrer comment, à la suite de Jésus, chacun de nous devient disciple, prophète, prêtre et roi. Et comment, c'est ça le but final, comment montrer comment aujourd'hui, c'est quelque chose qui constitue, même si à première vue c'est des concepts qui semblent peut-être passer un peu au-dessus de notre tête, comment aujourd'hui cette réalité constitue le concret de notre quotidien. Comment cette réalité fait de nous des chrétiens aujourd'hui dans le monde. On m'a demandé de préparer quelques questions pour les groupes de réflexion après. J'articulerai mes questions autour de ça. Comment ces paroles, ces concepts de prêtre, prophète et roi m'aident à m'unifier dans le Christ aujourd'hui? Et puis ensuite, quel contenu je donne à cela? Je répéterai ces questions-là à la fin. Je les dis comme ça au début, ça peut peut-être aider à écouter un petit peu, à saisir les choses. J'ai pris devant moi l'étonnement de l'un ou l'autre, le rituel du baptême des petits-enfants. Pourquoi est-ce que je commence par là? Parce que, bon, la plupart d'entre nous ne s'en souviennent sans doute pas. Quand on a l'habitude de baptiser, bon, c'est des paroles qui reviennent régulièrement et qu'on entend et qu'on lit très souvent. Vous savez qu'au moment du baptême, à peine l'enfant ou l'adulte est-il baptisé, on lui fait une onction avec le Saint-Crème. Pendant le Saint-Crème, on oint son crâne, on oint son front. Et à ce moment-là, le prêtre dit « Tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché. » Il t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut pour que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Nous devenons prêtre, prophète et roi dans le baptême à la suite du Christ, quand nous sommes greffés sur le Christ par ce sacrement, quand par ce sacrement nous participons à toute la dignité, à toute la gloire, à toute la grâce, à toute la vie même qui est celle du Christ. Ça commence dans le baptême. Il y a un très beau texte aussi du Concile Vatican II. Je terminerai d'ailleurs, après le parcours biblique, par reprendre ces expressions, en tout cas la façon dont le Concile en parle. Parce que vous savez, bon, cette réalité du chrétien qui, à la suite du Christ, est disciple, prêtre, prophète et roi, c'est quelque chose de toujours. Je veux dire, on n'a pas inventé ça au XXe siècle, on n'a pas inventé ça avec le Concile Vatican II. Mais c'est le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur l'Église, qui formule ça de la façon la plus lumineuse. Auparavant, on a toujours vécu cette réalité, on a toujours expérimenté, les auteurs spirituels, les saints l'ont exploité, mais ça n'avait jamais été formulé avec autant de pertinence. Quand la constitution, le Lumen Gentium, donc c'est une constitution, un texte dogmatique, donc un texte qui dit l'enseignement de l'Église, qui dit ce que l'Église comprend d'elle-même et qui explique au monde, aux hommes, aux femmes d'aujourd'hui, ce qu'est le mystère de l'Église. Et dans le mystère de l'Église, une composition, un élément essentiel, c'est le peuple de Dieu. L'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est pas, on avait, vous savez, les plus anciens peut-être ont peut-être ça mieux en mémoire. On avait de l'Église une vision très pyramidale. L'Église, c'est le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, et puis les fidèles. Bon, le peuple de Dieu renverse un peu cette image et remet les choses à leur place. L'Église, c'est ce peuple de Dieu qui est choisi par Dieu, qui est aimé par Dieu, qui est servi par Dieu, qui est conduit par Dieu pour avoir part à la plénitude de ce que ce Dieu est, ce Dieu d'amour est. Et ce peuple de Dieu, c'est l'essentiel de l'Église. Un peuple qui est organisé, un peuple qui est comme un corps, avec une tête, avec des membres, avec des mains, avec des pieds, avec tout ce qu'il faut pour qu'un corps fonctionne. Et ça, c'est la structure hiérarchique de l'Église. Il faut une tête qui pense, il faut une bouche qui parle, il faut des mains qui agissent, il faut des pieds qui marchent, il faut un cœur qui aime, il faut une intelligence qui réfléchit. Il faut tout ça dans l'Église. Et c'est présent dans le corps du Christ, dans la manière dont il est organisé. Mais cette réalité du peuple de Dieu est essentielle. Et le Concile Vatican II, au chapitre 2 de la Constitution Lumen Gentium, dit ceci. Je trouve que c'est lumineux. Ce peuple messianique a pour chef le Christ. Le chef, c'est la tête. Caput, c'est la tête. Ce peuple messianique a pour chef, a pour tête le Christ, livré pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Possesseur, le Christ, désormais du nom qui est au-dessus de tout nom et glorieusement régnant dans les cieux. C'est le Christ exalté dans la gloire, le Christ qui a le nom du Sauveur. Jésus, c'est Dieu sauve. Et il est le Sauveur aujourd'hui, exalté dans la gloire, qui règne dans le ciel. La condition de ce peuple, du peuple messianique, c'est la dignité et la liberté des fils de Dieu, dans le cœur de qui, comme dans un temple, habite l'Esprit Saint. Sa dignité, sa liberté, c'est la condition de ce peuple aujourd'hui. Sa loi, c'est le commandement nouveau d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. Sa destinée, enfin, c'est le royaume de Dieu inauguré sur la terre par Dieu même qui doit se dilater encore plus loin jusqu'à ce que, à la fin des siècles, il reçoive enfin de Dieu son achèvement. Lorsque le Christ, notre vie sera apparue et que la création elle-même sera affranchie de l'esclavage de la corruption pour connaître la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Il y a toute une fresque qui est évoquée dans ce passage qui nous montre ce pourquoi nous sommes là, ce que nous sommes, ce que nous faisons, vers quoi nous tendons. Nous sommes ce peuple de Dieu qui a pour chef le Christ. Notre condition, c'est la dignité et la liberté de fils de Dieu. Notre loi, c'est le commandement nouveau de l'amour. Notre but, notre fin, ce que nous poursuivons, notre destinée, c'est ce royaume de Dieu inauguré sur la terre qui se construit au fil du temps, au fil des jours, parce que nous vivons aujourd'hui, parce que l'Église fait aujourd'hui, connaît et expérimente aujourd'hui, jusqu'au moment où paraîtra dans la gloire ce Christ qui viendra régner en tous, au moment où il pourra remettre son royaume au Père, au moment où toute créature, où toute la création même, sera complètement affranchie du péché et de la mort, pour vivre au comble de son expression, cette liberté des enfants de Dieu qui s'exprime dans l'amour. On a une fresque. Les thèmes, donc, disciples, prophètes et rois, nous aident peut-être à affiner la perception de ces choses et nous aident à nous situer comme véritables acteurs, comme véritables parties prenantes de cette destinée du peuple de Dieu. C'est par le moyen de ces termes qui nous caractérisent que nous avons quelque chose à faire, que nous avons une place, que nous sommes quelque chose dans ce peuple de, dans ce peuple de Dieu, dans ce royaume de Dieu qui s'instaure sur la terre. Je vais essayer donc maintenant de reprendre un à un les différents termes qui sont là écrits au-dessus de ma tête. Le disciple, tout d'abord. Disciple, bon, les latinistes ou ceux qui ont des racines latines savent que ça vient du mot dicere, discere, qui veut dire apprendre. Le disciple, c'est celui qui est à l'école. C'est celui qui se met à l'écoute, à l'école d'un maître, qui s'attache à un enseignement. C'est celui qui se met volontairement à l'école d'un maître et qui en partage les vues. Dans l'Ancien Testament, c'est un terme qui est en fait peu utilisé. On voit qu'il a une meilleure fortune dans le Nouveau Testament, surtout dans l'Évangile, où les disciples sont ceux qui entourent Jésus. On verra cela. Mais dans l'Ancien Testament, on trouve déjà des disciples autour des prophètes, principalement. Pensez à Élie et Élisée. Élisée, c'est le disciple d'Élie. C'est celui qui s'est mis à l'école d'Élie, qui s'est attaché à lui, qui suit son enseignement et qui continue son action, son œuvre, qui continue à annoncer la même parole que celle qu'il a annoncée. Mais dans l'Ancien Testament, et surtout à propos des prophètes, on se rend compte que, en fait, on ne parle pas tellement de disciples parce que celui à l'école de qui il faut se mettre, ce n'est jamais un homme, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement que Dieu donne. C'est cela qu'il faut apprendre, c'est à cette école-là qu'il faut être, pas à celle d'un homme qui la répète. Et on va voir que, par exemple, dans le livre de la sagesse, dans le livre des proverbes, la sagesse prend une place concrète, se personnifie. La sagesse, c'est la présence de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Et la sagesse appelle et forme des disciples. C'est Dieu qui parle au cœur des gens, c'est Dieu qui se révèle et qui attire à lui des personnes qui vont l'écouter, qui vont se mettre à suivre son enseignement pour agir selon sa volonté. C'est Dieu qui enseigne lui-même. Et c'est quelque chose de constant dans l'Ancien Testament, c'est même une promesse faite dans l'Ancien Testament. C'est Dieu lui-même qui enseignera son peuple. Et plus personne n'aura besoin d'un maître terrestre, parce que Dieu parle au cœur de ceux qui l'appellent. Il y a une figure, et c'est une figure que nous allons voir revenir à chacun des termes, à un moment du parcours, il y a la figure du serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament, ce mystérieux serviteur de Dieu dont on parle dans 3-4 passages du livre d'Isaïe, les fameux chants du serviteur souffrant. Ce serviteur de Dieu, la tradition chrétienne l'identifie à Jésus. Vous voyez que c'est le moyen de passer de tout ce que l'Ancien Testament enseigne, de tout ce que l'Ancien Testament nous fait comprendre, de tout ce que l'histoire du salut essaie de nous révéler. Le serviteur de Dieu, c'est le canal qui permet de passer au Christ, de montrer comment, dans le Christ, cela se réalise. Le serviteur de Dieu, dans le chapitre 42 d'Isaïe, au verset 1 et 4, on dit qu'il est chargé d'enseigner, que les îles lointaines attendent son instruction. Le serviteur de Dieu, il est chargé d'enseigner. Mais avant cela même, c'est un peu plus loin, au chapitre 50, au verset 4 et 5, le serviteur de Dieu est le premier qui écoute la parole de Dieu. Chaque matin, dit le texte, la parole me réveille. Le Seigneur a fait de moi un disciple, quelqu'un qui apprend. Chaque matin, la parole me réveille et le Seigneur m'a donné une langue de disciple. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le serviteur de Dieu, celui qui va enseigner, est d'abord celui qui écoute chaque matin. Quand on passe à Jésus, on se rend compte comme c'est vrai, comme c'est profond. Quand vous voyez Jésus, on se demande quelquefois, mais qu'est-ce que Jésus fait? Pourquoi est-ce que Jésus a besoin de prier? Pourquoi est-ce qu'il passe des nuits entières dans la prière, dans l'Évangile?
lui qui est tout le temps en contact de Dieu, lui qui est un avec le Père, lui qui est le Fils aimé, lui qui est investi de toute la puissance du Père, de toute la grâce, de toute l'onction de l'Esprit, eh bien Jésus se laisse ouvrir l'oreille. C'est d'ailleurs une des phrases que la lettre aux Hébreux lui applique, hein, en prenant un extrait du psaume, où en entrant dans le monde, la lettre aux Hébreux dit cela en citant le psaume 139, je crois. Elle dit, ce psaume dit, « Tu m'as donné une oreille et j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté. » Bon, il y a deux traductions, « Tu m'as donné une oreille » ou « Tu m'as donné un corps ». Les deux ont beaucoup de sens, et surtout en Jésus. Mais tu m'as donné, arrêtons-nous à cet aspect, tu m'as donné une oreille. Jésus est celui qui est tout le temps tourné vers les vouloirs du Père, vers le vouloir le plus intime, le plus profond du Père. Il est tout le temps tourné vers cet amour du Père dont il s'imprègne, dont il s'abreuve, parce qu'il le reçoit continuellement. Il est le Fils continuellement engendré par le Père, qui se reçoit du Père. Il est le disciple, il est celui qui apprend par excellence le cœur du Père pour le recevoir continuellement et pour le partager, pour le faire connaître, pour enseigner. Je bousille un peu mon parcours. Dans l'Ancien Testament, et c'est le chaînon qui permet d'arriver au Nouveau, après l'exil, on voit fleurir en Israël des maîtres, les fameux rabbins, les fameux enseignants, les docteurs de la loi, qui sont très présents à l'époque de Jésus même. Il n'y a plus le service du temple, il n'y a plus le culte, mais il y a la synagogue. On a une synagogue ici tout près, avec un rabbin qui doit enseigner, qui continue cette tradition. Le rabbin redit la parole de Dieu, redit l'enseignement de Dieu, mais le rabbin aussi, peu à peu, et c'est très vrai à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul également, le rabbin acquiert une sorte d'aura personnelle. Ça devient un maître qu'on écoute. Il y a des écoles de rabbins, il y a des rabbins célèbres, il y a des rabbins qu'on aime écouter, comme certains prédicateurs peut-être, et auxquels on s'agrège plus facilement parce qu'ils ont un enseignement qui frappe, une parole qui séduit, une manière d'exprimer les choses qui fait comprendre. Ils acquièrent une importance que Jésus va toujours quelque part contester. Dans le Nouveau Testament, Jésus est considéré comme une espèce de rabbin. Il est considéré comme un maître. On l'appelle d'ailleurs rabbi. Le titre que les disciples, que ceux qu'on va appeler disciples dans le Nouveau Testament, lui donnent, c'est maître. Le maître traduit en français deux concepts. Deux mots grecs. Il y a le mot « kurios », le mot « seigneur », qui se traduit par « maître » aussi, mais qui se réfère au Christ en tant que Dieu, en tant qu'il est ressuscité, en tant qu'il est investi du pouvoir sur la mort et sur la vie. Mais il y a aussi ces titres beaucoup plus fréquents, qui est assez surprenant quand on lit le texte grec de l'Évangile. Il y a ce titre de « didaskalos », maître, professeur, instituteur, enseignant. En latin, on le rend dans la Vulgate par préceptor, précepteur. Les disciples s'adressent très souvent dans l'Évangile à Jésus en l'appelant professeur, en l'appelant instituteur, en l'appelant précepteur. Celui qui enseigne, qui a un enseignement. Dans le Nouveau Testament, le mot disciple, lui, est appliqué tout d'abord aux 12, les 12 apôtres. Et puis aux fameux 72, les 72 disciples qui suivent Jésus. Ces disciples dans le Nouveau Testament, et c'est quelque chose d'assez particulier pour les disciples du Christ, ne deviennent jamais des maîtres. Ils sont toujours des disciples, toujours à l'école, toujours en train de recevoir, d'accueillir une parole qui vient de plus loin qu'eux, un enseignement qui les dépasse. Un enseignement qu'il répercute, mais un enseignement qu'il commence par écouter, par appliquer, par intégrer, par assumer dans leur vie. Jésus le dira d'ailleurs, ne donnez à personne sur la terre le nom de maître. Vous n'en avez qu'un seul. Ne donnez à personne sur la terre le nom d'enseignant. Vous n'en avez qu'un seul aussi, c'est Dieu qui enseigne vos cœurs. Les disciples de Jésus ne deviennent jamais des maîtres. Ils doivent se mettre à son école pour faire eux-mêmes des disciples. Et c'est le commandement donné par Jésus au moment où il disparaît dans le ciel, dans Saint Matthieu, le dernier chapitre, les derniers versets de l'Évangile, « Allez, et de toutes les nations, faites des disciples. » Faites de tous les gens, de toutes les personnes qui habitent la face de cette terre, des disciples, des personnes qui écoutent, qui se mettent à l'école de ce seul maître et seigneur qui est le Christ. Et il s'agit de se mettre à l'école d'un enseignement qui est vie. Ce n'est pas un enseignement intellectuel. Ce n'est pas faire une tête bien remplie ou rendre des gens intelligents ou supérieurement intelligents à d'autres. Non, rien du tout de cela. C'est se mettre à l'école de quelqu'un qui donne la vie et qui donne de vivre. À quelqu'un qui est l'amour et qui donne cet amour et qui insuffle cet amour dans les cœurs pour que cet amour puisse grandir, s'épanouir, pour que cet amour puisse faire vivre maintenant et toujours, pour nous faire entrer dans cette vie éternelle qui n'est qu'amour. Dans le Nouveau Testament, et c'est bien, je suis très heureux qu'on prenne le livre des Actes comme fil conducteur de cette nouvelle année, c'est vraiment une excellente idée. À partir du chapitre 6 du livre des Actes, le mot « disciple » est appliqué à tous les croyants, à tous ceux qui suivent le Christ, à tous ceux qui écoutent sa parole et qui entrent dans le mystère de la foi. Du spécifique concernant les 12 et puis les 72, on passe à toute l'Église. Et dans l'Église, chaque chrétien est un disciple, quelqu'un qui se met à l'école du Christ, qui suit son enseignement et qui vit de lui. Le disciple dans l'Évangile est caractérisé par trois choses. Ce n'est pas le disciple qui choisit son maître, c'est le maître qui choisit son disciple. Il y a toujours une vocation, un appel. C'est Jésus qui jette son regard sur quelqu'un parce qu'il l'a aimé, parce qu'il l'a prié pour lui, parce qu'il l'a choisi et lui dit « Suis-moi ». Le disciple est appelé dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche un maître et qui se promène à gauche à droite pour trouver celui qui lui convient. Non, c'est le maître qui va chercher ceux qu'il a choisis, ceux qu'il appelle à le suivre. Le disciple dans le Nouveau Testament ne s'attache pas tellement à un enseignement, je crois que c'est clair suite à tout ce qu'on a déjà dit, ne s'attache pas tellement à une doctrine, un enseignement, mais s'attache à une personne, le Christ, la personne du Christ. Le « suis-moi » de Jésus suppose qu'il y ait une certaine rupture, plus ou moins grande, selon le lien de ce disciple. Jésus invite certains à quitter femme, enfant, terre, et tout pour le suivre. Pour d'autres, le lien la rupture, en tout cas, est moins violente. Mais ce disciple doit rompre quelque chose pour se mettre à la suite du Christ, pour commencer à calquer sa conduite, sa manière de vivre sur celle-là même du Christ, pour écouter ses leçons. Les disciples dans le Nouveau Testament ne se détachent jamais de Jésus pour faire une école à part. Le peuple de Dieu, on a dit, il n'a qu'une tête, c'est le Christ. C'est à cette tête-là que tous les membres du corps se rattachent. C'est lui le maître et chacun de nous, nous le suivons. Ce disciple aussi, dans le Nouveau Testament, est appelé à partager le destin de son maître. Il n'a pas besoin de devenir un maître à part parce qu'il devient ce que le maître lui-même est. Tout ce que Jésus a connu, tout ce que Jésus sait du Père, il le livre à ceux qui sont ses disciples, qui deviennent ses amis, qui deviennent ses frères et ses amis, les gens qu'il aime. à qui il a tout donné jusqu'à sa vie même. Et ses disciples sont appelés à partager le destin de leur maître, au sens où ce sont les recommandations même de Jésus. Ils doivent porter la croix à la suite de Jésus. Ils doivent boire à la coupe à la suite de Jésus. Rappelez-vous les deux apôtres qui cherchent la première place. Est-ce qu'ils sont capables de boire à la coupe que je vais boire? Et ils doivent recevoir le royaume de Jésus, où ils sont appelés à rien moins qu'à régner avec lui. Le disciple est appelé à devenir l'équivalent du maître. Et c'est quelque chose qui est typique. Voilà peut-être pour éclairer la personne du disciple. Passons peut-être à la personne du prêtre. Ça fait peut-être un peu décousu comme ça, mais j'espère pouvoir faire le lien après. La personne du prêtre. Dans l'Ancien Testament, c'est une figure tardive, le prêtre. Au début de l'histoire sainte, il n'y a pas de personne qui soit prêtre en tant que tel. Il y a deux figures très mystérieuses qui apparaissent dans la Genèse, et Melchisédek, et qui, le roi de Salem, on ne sait pas d'où il vient, il n'a pas de généalogie, il offre le pain et le vin. C'est la première figure de prêtre qui apparaît. Mais la fonction du prêtre, elle est accomplie par un peu tout le monde. Les patriarches, principalement. Ce sont les patriarches qui élèvent un autel à Dieu, qui offre un sacrifice, qui demande une offrande à Dieu. Le prêtre apparaît surtout au moment où le temple apparaît dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament. À partir du moment où il y a un temple, il faut un service de ce temple, il faut des gardiens du culte, il faut un personnel spécialisé, je vais dire, qui assume les fonctions liturgiques dans le temple, et la figure du prêtre apparaît à ce moment-là. À l'époque de Jésus, le prêtre, il y a des familles, déjà dans l'Ancien Testament, donc avec la naissance du temple, il y a une tribu particulière qui est choisie pour être tribu sacerdotale, qui fournit les prêtres. C'est la tribu de Lévi. On appelle d'ailleurs les prêtres les Lévites dans l'Ancien Testament. Ce sont les membres de la tribu de Lévi qui ont comme héritage particulier de s'occuper des choses de Dieu dans le temple. À l'époque de Jésus, cette façon de faire perdure. Il y a des familles sacerdotales et la figure du grand prêtre, on le sait dans l'Évangile, c'est un personnage qui est choisi parmi ces familles sacerdotales et qui est désigné à l'époque de Jésus par le pouvoir politique, ce qui est le sommet de la corruption quelque part. C'est pour ça qu'il y a un tel antagonisme entre le grand prêtre qui est le gardien de la loi, le gardien du temple et qui ne peut pas reconnaître le Christ. Parce qu'il est tellement loin de ce qu'il doit être, en fait. Donc, le prêtre est avant tout député dans l'Ancien Testament au service du culte. C'est le gardien du temple, le gardien de la liturgie, le gardien du sacrifice. Et dans ce sens-là, le prêtre est un médiateur, un moyen. Un moyen qui donne à l'homme d'accéder à Dieu. Un moyen qui est là entre Dieu et l'homme pour être en relation, pour permettre à l'homme d'être en relation avec Dieu. C'est aussi un serviteur de la parole dans l'Ancien Testament. Parce que ce sont les prêtres qui doivent garder la loi, qui doivent garder matériellement le rouleau de la loi, le texte de la loi. Ce sont eux qui doivent recopier la loi pour la transmettre. Ce sont eux qui proclament la loi aussi. Il y a des passages de l'Ancien Testament, notamment dans le livre d'Esdras, où Esdras, un prêtre, redécouvre la loi du Seigneur et passe toute une journée à lire la loi du Seigneur devant le peuple qui écoute émerveillé les paroles de grâce qui sortent de cette loi. Le prêtre est le gardien, d'abord le serviteur, mais ensuite le gardien de cette parole qu'il doit transmettre. Dans ce sens-là, le prêtre est aussi l'homme de la connaissance dans l'Ancien Testament. Cette loi qu'il doit transmettre, il la connaît, il doit la connaître. Dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit que les prêtres sont très souvent critiqués, parce qu'ils sont souvent en deçà de leur mission, en deçà de ce qu'on attend d'eux. Ils sont critiqués par les prophètes. On va voir émerger la figure des prophètes. Mais les prêtres sont critiqués par les prophètes, même si certains prophètes sont des prêtres. Jérémie, Ézéchiel, ce sont des prêtres et des prophètes. Dans l'Ancien Testament, cette critique des prophètes, cette histoire du sacerdoce toute mouvementée, fait qu'on attend un prêtre nouveau, un prêtre messie, un prêtre qui doit être le grand prêtre par excellence. Il y a ce désir d'une figure qui doit émerger et qui, encore une fois, va se cristalliser dans la figure du serviteur de Dieu. Il y a aussi dans l'Ancien Testament cet appel ou cette promesse ou cette attente, cette espérance de voir tout le peuple de Dieu devenir un prêtre. Il y a des figures sacerdotales précises, des figures sacerdotales institutionnalisées, mais en fait, on trouve ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 19. C'est Moïse qui dit qu'il faut que le peuple devienne un royaume de prêtres et une nation consacrée. Et cette espérance va traverser tout l'Ancien Testament à côté des figures institutionnelles. Elle va bien sûr prendre un sens nouveau dans le Nouveau Testament aussi. Dans le Nouveau Testament, regardons, Jésus n'a jamais reçu le titre de prêtre dans l'Évangile. Jésus n'est jamais appelé prêtre, n'est jamais considéré comme un prêtre, ne se donne pas le titre de prêtre non plus. C'est seulement les écrits postérieurs, la lettre aux Hébreux principalement, qui va voir en Jésus la figure du grand prêtre. Paul va aussi interpréter la vie de Jésus comme une vie, comme une action, comme un service sacerdotal. Au sens où il accomplit une mission sacerdotale. La mission sacerdotale de Jésus, celle qu'il accomplit dans sa vie, c'est celle du sacrifice. Le prêtre institutionnalisé dans l'Ancien Testament était chargé d'offrir le sacrifice. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, offre aussi un sacrifice. Il n'immole pas des bêtes sur l'autel dans le temple, mais au moment où, au jour du Vendredi Saint, on immole dans le temple les agneaux pour la Pâque, Jésus est mené à l'extérieur de la ville et cloué sur la croix pour être le véritable, l'unique, le parfait agneau pascal. Jésus est un prêtre dans sa vie par ce qu'il fait de sa vie. Il est le prêtre de son propre sacrifice, au sens où Jésus s'offre lui-même comme sacrifice, un sacrifice à Dieu, et un sacrifice qui accomplit tous les sacrifices de l'Ancien Testament, puisque ce sacrifice devient véritablement efficace. C'est un sacrifice qui sauve du péché, qui sauve de la désobéissance, un sacrifice qui introduit pour toujours les hommes auprès de Dieu, dans la grâce de Dieu. Un sacrifice qui appelle pour toujours, définitivement et parfaitement, la bénédiction de Dieu sur le peuple pour qui ce sacrifice a été offert. Jésus est véritablement le grand prêtre par ce qu'il est, par ce qu'il vit, par l'offrande de sa mort en sacrifice à Dieu. La lettre aux Hébreux, l'Évangile plutôt, ou l'Écriture, le Nouveau Testament, évoque cette mission du sacrifice de Jésus par touche, comme ça, par note. Ce n'est jamais dit très précisément. Et celui qui insiste le plus là-dessus, c'est saint Jean, dans son Évangile. Il y a des choses comme ça. Par exemple, au moment où Jésus monte sur la croix, vous vous souvenez, on le dépouille de ses vêtements avant de le clouer sur la croix. Et quand on le dépouille de ses vêtements, les soldats tirent au sort sa tunique qui est un vêtement sans couture, d'une seule pièce. Le propre de la tunique du grand prêtre juif était d'être un vêtement sans couture. C'est une façon qu'a saint Jean de montrer que celui qui monte sur la croix, c'est le prêtre, le grand prêtre des temps à venir, le grand prêtre définitif, qui dépose sa tunique pour pouvoir s'offrir en sacrifice. Il y a aussi dans Saint Jean au chapitre 17 cette prière sacerdotale du Christ qui explique le sens de son geste, hein, qui offre l'humanité au Père et qui supplie le Père de prendre soin de cette humanité qu'il lui a donnée pour la sauver, pour la sanctifier. Dans cette même prière sacerdotale, Jésus parle de se sanctifier lui-même pour sanctifier les autres. Le mot sanctifier équivaut au mot sacrifier. On sanctifie une victime, ça veut dire qu'on l'immole, qu'on la sacrifie à Dieu dans le temple ancien. Jésus fait ça de lui-même. Et ces termes-là sont utilisés par Jean pour montrer comment Jésus est le prêtre véritable. C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'instant déjà, la lettre aux Hébreux qui explicite véritablement ce concept. En disant de Jésus qu'il est le grand prêtre à venir, qui possède un sacerdoce unique, qui ne passera pas. Un sacerdoce qui dans son unicité éclipse tous les autres sacerdoces. Il n'y a plus besoin de prêtres après Jésus. Les prêtres comme j'en suis un, ne sont que des serviteurs, des petits serviteurs de rien du tout, de ce grand prêtre-là, qui rend présent au milieu de son peuple aujourd'hui le mystère de ce sacrifice du Christ, mais qu'il ne faut rien d'autre que présenter le prêtre unique et le sacrifice unique du prêtre unique sur l'autel unique de la croix. Les prêtres que nous sommes, même malgré toute leur importance qu'on leur donne dans l'Église, n'ont aucune importance par rapport au Christ. C'est le Christ qui est le grand prêtre, le prêtre véritable. Dans sa personne, le Christ réunit... Oui, j'ai peut-être sauté un peu ces étapes-là, mais dans l'Écriture... On voit dans le Nouveau Testament comment le Christ réunit en sa personne les médiations diverses dont on va s'apercevoir qu'elles sont celles du prophète, du prêtre et du roi. Il est parole éternelle, je vais développer ça par après, mais je le dis déjà maintenant, en suivant les notes que j'ai là. Il est la parole éternelle qui achève et dépasse les prophètes. Le prophète, on va le voir juste ensuite, c'est celui qui porte la parole de Dieu. Jésus est plus grand que cela puisqu'il est lui-même la parole de Dieu. Jésus est le Fils de l'homme qui assume l'humanité, dont il est le roi avec une autorité et un amour nouveau. C'est le titre, on ne parle pas de Jésus roi véritablement dans le Nouveau Testament, enfin qu'on verra ça dans la partie qui concerne le roi, mais il est aussi et surtout ce médiateur unique entre Dieu et les hommes, il est le prêtre parfait. Ce qu'on voit aussi, c'est que, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure en parlant du disciple, Jésus fait participer ses disciples à son sacerdoce. Quand Jésus appelle des disciples à le suivre, on l'a dit tout auparavant, il les appelle à prendre eux aussi la croix. Il les appelle, eux aussi, à boire à la coupe à laquelle il a bu. Il les appelle à témoigner jusqu'au bout, jusqu'à la mort même, de ce plus grand amour dont il a témoigné lui-même. On se rend compte comment ce grand prêtre appelle une nation de prêtres à se lever. Comment ce grand prêtre, à sa suite, attire ses disciples à devenir ce que lui-même a été, à devenir eux aussi prêtres. Et c'est ça le fondement, la racine du sacerdoce commun des fidèles, ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Le fait que chacun des fidèles du Christ, des croyants au Christ, devienne à la suite du Seigneur prêtre lui aussi. Dans la lettre aux Romains, par exemple, saint Paul va développer cet aspect. La lettre aux Romains, chapitre 12, le verset 1er, Paul va dire « Offrez-vous vous-même un sacrifice vivant et véritable. » C'est là le culte spirituel que vous devez rendre à Dieu. L'offrande agréable qui lui plaît. Offrez-vous vous-même à la suite du Christ qui s'est offert. C'est ce fameux culte spirituel auquel tous les chrétiens sont appelés et qui sera développé aussi dans le commentaire des Épîtres et notamment précisé entre autres par Saint Pierre, par Saint Jacques aussi. Hein. Ce culte spirituel n'est pas seulement le fait de faire une offrande de soi en s'arrêtant au seul aspect liturgique de la louange, mais cette offrande de soi passe aussi concrètement par la façon de se donner aux autres dans le service des autres, dans le service concret des autres. Il y a un aspect liturgique, louange, sacrifice, hein, mais il y a un aspect très concret, très matériel, qui est celui du service aux frères, aux sœurs, à l'humanité. Cette offrande se fait concrètement don aux autres. On devient, saint Augustin parle de cela, quand il parle des chrétiens, quand il parle du mystère de l'Eucharistie, il dit en montrant sur l'autel l'hostie, il dit « Voyez ce que vous êtes. Tous divers autant que vous êtes, vous devenez un seul pain, comme les grains de froment qui sont broyés pour faire la farine dont on fait le pain, aggloméré par le ciment de l'Esprit-Saint, vous devenez ce pain. Mais un pain qui va être rompu, c'est le sacrifice du Christ, le sacrifice auquel le chrétien est appelé. Un pain qui va être rompu pour être distribué aux frères, aux sœurs, pour leur vie, pour leur nourriture. » On a vraiment l'aspect sacerdotal qui est évoqué dans cette image. On doit se laisser rassembler par l'Esprit, on doit se laisser briser dans le Christ pour se laisser offrir par le Christ à nos frères comme une nourriture. C'est le sacerdoce commun auquel tous les chrétiens sont appelés. C'est ce à quoi nous sommes appelés quand nous sommes conviés à l'Eucharistie aussi, devenir ce qui est célébré devant nous. Voilà peut-être pour le sacerdoce. On a évidemment dans le Nouveau Testament la fameuse phrase de la première lettre de Saint Pierre au chapitre 2, en fait c'est quelques versets entre les versets 5 et 9, hein, qui parle, c'est d'ailleurs l'objet d'une préface, la première préface des dimanches, hein, nous sommes devenus un sacerdoce saint, une nation sainte, qui est chargée d'offrir des offrandes spirituelles, sommes et race élue, sacerdoce royal, nation sainte, qui sommes chargés d'annoncer les merveilles du Dieu qui nous a tirés des ténèbres pour nous faire accéder à son admirable lumière. Le rôle sacerdotal du peuple de Dieu, il s'enracine là. Nous avons été faits prêtres à la suite du Christ pour continuer à annoncer, à vivre l'annonce concrètement de ce que le Christ a fait pour nous et de ce que nous sommes appelés. De Pierre 1, Pierre 2, 5, 9. Je ne vais pas chercher parce que sinon on va perdre du temps. Il y a aussi des références à ce royaume de prêtres dans l'Apocalypse principalement, hein, où on parle du peuple de Dieu, du peuple racheté comme une royauté de prêtres qui est appelée à régner sur la terre. On parle des prêtres de Dieu et du Christ. Je passe au prophète. Vous tenez toujours bon ? Je vois que je prends du temps. Je crois que je n'avais pas assez à dire, mais j'ai trop en fait. Je vais peut-être essayer d'aller un peu plus vite alors. C'est toujours le même principe en fait. J'essaie de montrer, je l'ai expliqué au début, comment ce qui parcourt l'Ancien Testament se cristallise en Jésus et à partir de Jésus se réalise en nous. Le prophète, c'est la même chose. Dans l'Ancien Testament, on a toute une série, c'est un thème très varié, mais on a toute une tradition prophétique qui est assez diverse. On a des prophètes comme Élie, Élisée, on a des prophètes comme Isaïe, qui a des disciples aussi, toute une école autour de lui. On parle d'ailleurs dans l'Écriture, quand on examine le livre d'Isaïe, on parle d'un premier Isaïe, d'un deuxième Isaïe, d'un troisième Isaïe, comme étant des disciples d'Isaïe qui auraient rédigé le livre à la suite de leur maître. Jérémie a comme disciple Baruch. On a aussi évidemment cette image du serviteur de Yahvé, du serviteur de Dieu, qui est à la fois, je l'ai déjà dit, prophète, disciple et enseignant. Il doit porter la parole de Dieu, la parole qu'il reçoit, la parole dont il doit instruire les autres. Le prophète est toujours dans la communauté, en lien avec le prêtre et le roi dans l'Ancien Testament. Le prophète éclaire le roi. Pensez, il l'éclaire parfois violemment, hein. Il le secoue, il le critique, il le rappelle à l'ordre. Pensez, je pense à Élie et le fameux Akab, hein. Akab qui déplaît au Seigneur et Élie qui vient continuellement poursuivre Akab pour dénoncer ses erreurs et pour lui dire « tu n'es pas dans la volonté de Dieu ». Le prophète conteste. Le prophète n'est pas une institution comme le roi et le prêtre dans l'Ancien Testament. Le roi, c'est une institution, c'est un roi qui est choisi. Le prêtre, il est institué aussi dans la tribu de Lévi. Le prophète est plus gratuit que cela. Il est appelé directement par Dieu dans l'Ancien Testament. Il est choisi par Dieu, il est donné par Dieu. Dans l'Ancien Testament aussi, on verra, suite au fil de l'histoire, on verra se dessiner l'attente du grand prophète, l'attente du vrai prophète, du prophète définitif, de celui qui pourra dire véritablement la parole de Dieu. Les caractéristiques du prophète dans l'Ancien Testament, c'est sa vocation, encore une fois. Il est appelé à l'initiative de Dieu qui lui confie une mission. Une autre caractéristique, c'est que son message coïncide généralement avec sa vie. C'est très vrai de certains prophètes en particulier. Je pense à Osée, la femme infidèle d'Osée. Osée se marie, sa femme le quitte, il est désespéré, et puis il doit reprendre cette épouse pour lui pardonner. Et c'est une image de ce que Dieu veut dire à son peuple, une image qui n'est pas seulement proclamée par la parole d'Osée, mais qui est vécue dans la vie d'Osée. Message et vie ne font qu'un. Je pense également au célibat de Jérémie, par exemple. Jérémie qui est amené à toute extrémité, qui est maudit, qui est jeté dans sa citerne, jeté, condamné à la mort, et puis sauvé in extremis. Jérémie qui va accompagner son peuple en exil. Le message du prophète, encore une fois, est vécu concrètement et prend chair dans sa vie. Je pense également à Ézéchiel, fils d'homme. C'est cette curieuse lecture, tu n'auras pas ton turban, tu ne te voileras pas les moustaches, tu vas faire ton ballot de déporté, tu vas creuser le mur en plein jour, tu vas passer à travers du mur en poussant ton ballot et tu vas t'en aller. Et quand on te demandera ce que tu fais, tu diras « voilà ce que tu viendras à Israël ». Je vais te prendre du jour au lendemain la joie de tes yeux. Sa femme meurt pour montrer qu'Israël est perdu, est privé de son amour. Le message fait corps avec la vie du prophète. Le prophète dans l'Ancien Testament est aussi quelqu'un qui est soumis à l'épreuve violente, on vient de le voir. Il est toujours en lutte intérieurement. Il est parfois réduit à la dépression. Il y a des moments où Élie ou Moïse même sont en pleine déprime. Quand Élie se réfugie dans le torrent du ravin de Kérit, là, et s'abandonne en disant « Maintenant, Dieu prend ma vie, je ne peux plus rien, je suis poursuivi, assailli de tout. » Et puis le fameux corbeau lui apporte du pain. L'ange lui dit « Mange, mange, parce que la route est longue. Mange, mange, la route est longue. » Et Élie se relève, plein d'énergie, va dans la montagne de l'Horeb, et puis assassine 500 faux prophètes d'un coup, et la vie reprend. Mais avant ça, il y a toute cette épreuve du prophète, une lutte intérieure, une lutte extérieure. Cette lutte et cette épreuve du prophète se remarquent tout particulièrement, encore une fois, dans la figure du serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est le serviteur souffrant, celui qui écoute la parole pour la porter aux autres, il doit être livré à la mort. Et dans le récit de la souffrance du serviteur souffrant, on a un calque de ce qui va se passer dans la passion même de Jésus. Il est méprisé, il n'a plus figure humaine, il est réduit à l'état d'un ver. On lui arrache la barbe, on lui couvre le visage de crachats, il est couvert de sang, de blessures. C'est l'épreuve au plus concret. Et finalement, la vie du prophète s'achève par une mort violente. Jésus le résume dans l'Évangile en disant « Jérusalem, toi qui tues les prophètes, Hein? Jésus le rappelle dans l'Évangile quand il rapporte cette parabole des vignerons homicides. Hein? Les envoyés du Père ne sont pas reçus. On tue les premiers, celui qui vient chercher le fruit de la vie. On tue le suivant et on veut jusqu'à tuer le fils, l'héritier. Le prophète est toujours condamné à mort. Donc on voit que le rôle du prophète, c'est de critiquer, c'est de dénoncer en vue de purifier. De purifier quoi ? De purifier du péché, des fautes contre la loi, et aussi de toutes les traditions humaines, de tout ce qui est sacrilège, du culte sacrilège. On voit que le prophète projette vers une figure future qui doit l'accomplir. Cette figure future, c'est évidemment Jésus. Jésus qui est la parole même de Dieu. Cette figure qui est accomplie en Jésus je pense au temps qui court et je n'ai pas fini. Cette figure qui s'accomplit en Jésus va aussi s'accomplir dans le peuple de Jésus, dans les fidèles de Jésus. C'est l'événement de la Pentecôte, au moment où l'Esprit est répandu sur chacun pour leur permettre de proclamer dans toutes les langues et par toute leur vie le message du Christ, la parole, la bonne nouvelle, cette parole qui vient de Dieu. Le peuple est fait prophète et devient véritablement prophète. Bon, je passe là-dessus, j'en viens vite à la figure du roi. Je crois que j'en ai fini, je crois. La figure du roi. Bon, le roi dans l'Écriture, c'est une figure qui a de la peine à s'imposer. Au départ, il n'y a pas de roi. Il y a des patriarches, il y a des juges. Mais il n'y a pas de roi. Les rois, c'est une contamination du milieu ambiant dans la Bible. Les Israélites veulent un roi comme les autres ont un roi, pour pouvoir aller à la guerre, pour pouvoir vaincre, pour pouvoir avoir quelqu'un qui commande, etc. Et il y a cette fameuse petite parabole dans le livre m'échappe maintenant, mais quelque part dans l'Ancien Testament, où il y a cette critique acerbe du roi. Où il est dit, mais si vous avez un roi, il va prendre le meilleur de votre terre, il va lui falloir un palais, il va lui falloir une cour, il va prendre vos fils pour en faire des soldats, il va prendre vos paysans pour cultiver vos terres, il va récolter le fruit de vos récoltes, etc. Il y a une critique acerbe de la royauté, parce que le roi d'Israël, c'est Dieu, c'est pas un homme. Hein. Et l'homme qui se prendrait pour un roi, c'est un usurpateur de Dieu. Il prend la place de Dieu, c'est lui seul qui doit régner. Pensez, Jésus dans le Nouveau Testament annonce le royaume de Dieu, le royaume ou le règne de Dieu. Royaume et règne se confondent un peu. Le royaume, c'est le lieu où Dieu règne. Le règne, c'est le fait qu'il règne, qu'il est roi. Mais c'est Dieu, c'est pas un homme. Enfin, cette figure du roi vient quand même à se développer et elle est évidemment très chaotique. Il y a des grands rois. Mais il y a des rois misérables. J'ai cité Akab déjà. Pensez au sage Salomon qui, au début de son règne, a la sagesse de Dieu et dirige comme il faut son peuple, mais qui, à la fin, décline en se laissant contaminer par les divinités étrangères de ses nombreuses épouses et finalement finit par déplaire à Dieu. La figure du roi la plus belle dans l'Ancien Testament, c'est celle du roi David, évidemment. David qui va fonder la dynastie et l'espérance royale en Israël, puisque c'est à partir de David que va se dessiner l'espérance d'un roi Messie, qui encore une fois va être incarné par Jésus, réalisé par Jésus, le roi pacifique. Pensez au livre de Zacharie qui annonce un roi humble monté sur le petit d'une ânesse. Zacharie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament dans nos Bibles, qui précède immédiatement les Évangiles. Et pensez à la passion de Jésus, pensez à l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, sur quoi Jésus entre-t-il ? Le roi de gloire, le roi des siècles, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il entre sur le petit d'une ânesse qu'il a emprunté à un homme de la ville pour pouvoir faire cette entrée. Cette entrée, non pas vers le triomphe, cette entrée, non pas vers la gloire, vers la puissance, mais cette entrée vers la mort, vers le sacrifice, puisqu'il inaugure la semaine de sa passion, la semaine qui nous conduira au sacrifice de la croix. On se rend compte que Jésus, c'est le roi pasteur, c'est le roi berger, c'est le roi qui est là pour la vie, c'est le roi qui donne sa vie pour la vie de son peuple. C'est comme ça que Jésus est roi, c'est comme ça que Jésus règne. Quand, au moment de la Passion, il lave les pieds des disciples, il leur dit « Je vous donne un exemple pour ce que j'ai fait, pour que ce que j'ai fait, vous le fassiez vous aussi envers chacun. » C'est le roi serviteur. C'est le Seigneur qui s'agenouille devant sa créature. Ça, c'est le royaume de Dieu. On parlait avec Armand tout à l'heure de la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu, c'est le service. C'est ce Dieu qui se met au service de sa créature parce qu'il l'aime. Voilà comment Jésus est roi. Et ce Jésus roi nous appelle à devenir roi, nous aussi. Il nous introduit dans son règne, dans son royaume, pour que nous puissions à sa suite devenir des serviteurs. Et c'est en devenant serviteurs, en abandonnant cette espèce de condition souveraine dans laquelle nous croyons spontanément que nous avons la liberté, c'est en abandonnant cette condition souveraine d'indépendance, un peu égoïste, en nous faisant serviteurs, que nous apprenons à régner, c'est-à-dire à jouir de cette vraie liberté, de cette vraie dignité, qui est celle même du Seigneur, roi et pasteur de son peuple. Dans le livre de Daniel, il y a cet oracle qui annonce que le royaume, l'empire, la grandeur de tous les royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Et dans l'Apocalypse, on voit comment cet oracle est réalisé. Dans l'Apocalypse, il y a cette vision de la liturgie céleste, il y a cet autel où les martyrs crient, ceux qui ont versé leur sang pour Jésus crient en appelant la liberté, en appelant le royaume. Et il est dit qu'ils sont devenus, ces martyrs du Christ qui ont refusé d'adorer la bête, sont devenus le règne du Christ. Ils régneront avec lui. Il règne avec lui. Et lui va régner avec eux et va remettre cette royauté au Père, au moment où tout lui sera soumis au Père. C'est la fin des temps, c'est cette vision eschatologique du royaume qui sera tout en tous. Où tous nous serons devenus ce que le Christ attend que nous devenions. Mon temps est passé et j'ai pas lu le concile. Mais je vais pas lire parce que ça va être trop long. Mais enfin, je sais pas si vous avez compris ce que j'essayais d'expliquer. Le concile explicite ça d'une façon beaucoup plus concrète encore. Montre comment, c'est pas tout ça, c'est seulement trois pages, où on explique comment les laïcs, les fidèles du Christ, participent au sacerdoce commun et au culte, comment les laïcs participent à la fonction prophétique du Christ et au témoignage, et comment les laïcs participent au service royal du Christ. C'est le développement de ce qui est annoncé dans l'Écriture, montrer comment chacun de nous, nous sommes appelés dans notre vie à vivre ce sacrifice de louange, ce sacrifice de service qui fait que nous aussi, nous devenons comme le Christ, les prêtres de notre propre sacrifice en nous offrant pour la vie de nos frères, en nous offrant dans le service de nos frères comme la véritable louange, comme le véritable culte rendu à Dieu. Bon, nous sommes prophètes parce que nous avons à recevoir cette parole, à l'assimiler, à la porter, à la rendre, à en témoigner. Nous portons la parole. Et nous sommes des rois parce qu'à la suite du Christ, nous avons à transformer l'ordre du monde en nous mettant au service de nos frères, comme lui a été au service de ses frères. Bon, c'est super condensé, super résumé. Du concile, c'est le chapitre 4 de Lumen Gentium, donc la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, chapitre 4, ce sont les numéros 34 pour la fonction sacerdotale, 35 pour la fonction prophétique et 36 pour la fonction royale. Ça vaut la peine d'être lu et médité et commenté aussi.